السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ولی ہے.
اللہ پسد اللہ تربی
ولی کے تحت لغات میں لکھا ہے.
Cet attribut a été décrit par les lexiques arabes qui expliquent que wali signifie un aide ou un soutien, celui qui s'occupe de toutes les affaires de la création. Et c'est pour cette raison que le monde existe. Parmi les attributs de Dieu, il y a al-wali, c'est-à-dire celui qui est le maître de toutes choses, celui qui contrôle tout. Selon Ibn Athir, la walaya signifie que l'on doit posséder la force, être amène à faire des plans et avoir le pouvoir d'agir. Le terme wali ne s'applique pas à celui qui ne possède pas ces qualités. Voilà donc ce qui a été présenté par le dictionnaire Lisanul Arab. Al-Waliyu signifie ami, aide. Selon Ibn al-Arabi, Al-Wali signifie un bien-aimé que l'on doit suivre. Allah déclare dans le Saint-Coran « Allahu waliyyu alladhina amanu ». C'est un verset de la sourate Al-Baqarah. Abu Ishaq rapporte à ce propos que Allah est l'aide des croyants afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. C'est lui qui les guide dans leur foi. Tout comme Allah déclare « Walladhina ihtadaw zadahum huda ». Et Dieu aide les croyants contre leurs ennemis et il accorde la victoire à leur religion sur la religion de leurs ennemis. Je vais citer ce verset de la sourate Al-Baqarah où il est dit « Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah est l'ami de ceux qui croient. Il les fait sortir de toutes sortes des ténèbres et les amène vers la lumière. Et ceux qui ne croient pas, leurs amis sont les transgresseurs qui les font sortir de la lumière pour les amener vers toutes sortes de ténèbres. Ceux-là sont les gens du feu et ils y resteront longtemps. Tout comme l'a déclaré Dieu ici, Allah est l'ami de ceux qui croient. Ceux dont la foi n'est point ternie par les choses de ce bas monde, après avoir cru, ils s'efforcent à acquérir davantage de lumière de la part de Dieu. C'est ainsi qu'Allah leur accorde du succès. Que signifie faire sortir des ténèbres pour amener vers la lumière? Cela signifie faire sortir de la faiblesse physique et spirituelle pour mener vers le progrès physique et spirituel. Donc Allah annonce que quant à ceux qui croient, il leur accordera du succès physique et spirituel à la fois individuellement et collectivement. Et il les libérera de tout souci et de toute souffrance. Mais la condition ici est que l'on doit croire, avoir la foi et faire des progrès en ce sens. Ces progrès viennent du fait que l'on doit lire, comprendre et pratiquer les commandements de Dieu. Allah devient l'ami de celui qui va agir ainsi. Aucun ennemi, aucun état de ce bas monde ne pourra les anéantir. Mais qu'il soit clair aussi que les croyants font aussi face à des heures difficiles. Voilà ce qu'explique Allah. Ils passent par des malheurs. Ils ont à subir des pertes de vie, de biens et d'enfants. Si telle est la situation, que signifie donc faire sortir des difficultés physiques? L'on peut en déduire que sortir des ténèbres signifie le progrès spirituel. Et le fait qu'Allah devient un ami des croyants et les fait progresser dans le domaine de la spiritualité. Et le fait qu'il les récompensera dans l'au-delà tout comme il l'a promis. Mais que le croyant sache que lorsqu'il a une foi ferme en Dieu, il ne doit pas se soucier uniquement de ses avantages personnels et ne doit pas se soucier non plus de ses souffrances personnelles. Il doit avoir en tête la vie de la Jamaat. Certes, les croyants peuvent faire face à des difficultés financières, économiques ou personnelles. Mais si ces pertes personnelles sont subies en raison de la foi, dans la plupart des cas, ces pertes seront la cause du progrès de la Jamaat. Au début de l'histoire de l'islam, les musulmans n'avaient pas le droit de prêcher ouvertement à la Mecque et les musulmans étaient durement opprimés. À cette époque, les musulmans ont fait des sacrifices Mais est-ce que ces sacrifices ont été vains? Ils étaient la cible de l'oppression de la part des Mécois. Mais est-ce que cette oppression a été vaine? Non. Lorsqu'ils subissaient cette oppression, chacun de leurs sacrifices n'a fait qu'affermir leur foi. Et cela a causé le progrès de la communauté. Les gens n'ont cessé d'embrasser l'islam. En dépit de l'oppression, ils ont continué à progresser. Ensuite, en raison de cette oppression, ils ont dû partir en exil. Et suite à cette émigration, ils ont fait davantage de progrès. Leur nombre a augmenté et ils ont progressé financièrement. Et en fin de compte, ces koufars, ceux qui opprimaient les musulmans, ont dû se soumettre aux musulmans. Regardez aussi l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Après chaque malheur, après chaque épreuve, la Jamaat a progressé spirituellement et physiquement et matériellement aussi. La Jamaat a progressé. S'il n'y avait pas eu les événements de 1974, une partie des Ahmadis n'aurait pas quitté le pays. Il y avait ceux qui avaient de petits commerces, il y avait ceux qui avaient de petits terrains, il y avait ceux qui avaient des emplois sans grande importance. Certains n'avaient pas les moyens pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Ou s'ils en avaient les moyens, l'environnement n'était pas propice. Ces mêmes enfants sont venus ici en Occident et ont fait leur maîtrise, ont fait leur doctorat et sont des professionnels dans le domaine de la médecine et de l'ingénierie, alors que les autres membres de leur famille n'ont pas fait des études aussi poussées, soit par manque de moyens ou parce qu'ils n'étaient pas encouragés à le faire. Tout Ahmadi ayant quitté le Pakistan doit comprendre que d'une part, en raison de leur foi, ils ont dû quitter le pays. Mais en retour, Allah leur a donné une meilleure situation et leur niveau de vie a changé en raison de leur aisance. Ils ont pu donner une bonne éducation à leurs enfants. Et en tant que Jamaat, le nombre d'Ahmadis a augmenté et financièrement, la Jamaat se trouve dans une meilleure position. Lorsqu'ils ont progressé individuellement dans le domaine de l'éducation, le niveau général de l'éducation a augmenté aussi au sein de la Jamaat. Ces choses doivent rapprocher tout Ahmadi de Dieu. Ainsi, ils doivent progresser dans leur foi. Et ils ne doivent point en être orgueilleux ou fiers. Allah a déclaré qu'il est le Wali. Quant à nous, nous devons être de véritables serviteurs de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons profiter davantage de cette lumière. Seuls ceux qui ont quitté le pays n'ont pas progressé, mais Allah a accordé aussi des faveurs à ceux qui sont restés après les événements de 1974. Ceux à qui on voulait causer la ruine ont fait de grands progrès. Nous avons vu à la lumière des explications que Wali signifie ami et aide. Ceux qui ont fait des sacrifices pour la cause de l'Ahmadiyya ont eu soit eux-mêmes, soit leurs descendants, Allah pour ami et aide. Et Allah les a fait progresser davantage. En 1984, on a essayé d'arrêter la Jamaat. Et le calife a dû quitter le pays. Qui est venu porter secours à la Jamaat? C'est ce même Wali, cet ami, qui contrôle tout, celui qui a protégé aussi le calife au cours de son voyage. Il lui a accordé une telle protection qu'aucun ami de ce bas monde ne pourra accorder. En raison de cette immigration, le nombre d'Ahmadis a augmenté et cela a renforcé aussi la foi des Ahmadis. Et ensuite, grâce à la MTA, Dieu nous a accordé de grands progrès spirituels. Au même instant, dans le monde entier, on entend une seule voix, une voix qui invite vers la tarbiya et l'établir. Dans ce verset, on a promis aussi le progrès matériel. Mais à propos des mécréants, il est dit « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ » Quant aux kuffars, leur ami est Satan qui les fait sortir de la lumière pour les mener aux ténèbres. Allah a donc énoncé ce décret que ceux qui vont rejeter ces paroles seront les amis de Satan. Et Satan est celui qui fait sortir des lumières pour mener vers les ténèbres. Ceux qui suivent Satan ne profitent jamais de la lumière. Lorsque le saint prophète Mohammed a fait sa déclaration, et lorsqu'il a invité les gens de la Mecque vers la direction, parmi les chefs de la Mecque, il y avait ceux qu'on considérait être des sages, des personnes aimables, des personnes qui accomplissaient de bonnes œuvres. Mais ces mêmes personnes qui ont rejeté le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont tombées dans le filet de Satan et ont été privés de leurs bonnes œuvres. Et ensuite, ces personnes ont été complètement anéanties. Abul Hakam a porté le titre d'Abu Jahal et il est mort dans l'ignominie. J'en ai fait mention dans mon précédent sermon. Et jusqu'aujourd'hui, il est connu comme Abu Jahl jusqu'au dernier jour. Il portera le titre d'Abu Jahl. Satan était en fait son wali, son ami, un ami qui n'a pas pu lui porter secours et il s'est plongé davantage dans les ténèbres. Mais Bilal, un esclave, fut éclairé par la lumière de la foi et devint un ami de Dieu. En raison de sa relation avec Dieu jusqu'au dernier jour, il portera le titre de Sayyidna Bilal, Bilal, notre maître. Ensuite, à l'époque du Messie premier, en dépit de ses déclarations véridiques, Il fut rejeté par nombre de personnes et ses détracteurs se sont empêtrés davantage dans cette obscurité. Mais il y a ceux qui étaient des ignares, il y avait ceux qui étaient des corrompus. Lorsque Dieu leur a accordé ses faveurs, eh bien, ils ont progressé dans le domaine de la spiritualité suite aux promesses de Dieu. Ceux qui rejettent les prophètes s'enfoncent davantage dans cette obscurité et Satan leur remplit le cœur d'animosité, de rancœur, de jalousie et d'injustice à tel point qu'ils s'empêtrent davantage dans cet état d'obscurantisme et ensuite Allah déclare que leur fin sera affreux. En ce monde, ces personnes sont consumées par leur jalousie et par leur animosité. Le progrès de la Jamaat ne fait qu'attiser leur animosité, leur haine. Mais leur rage ne causera aucun tort à ceux qui sont les walis de Dieu. Je retourne de nouveau vers les explications des dictionnaires à propos de ce terme dans l'Lisan al-Arabe. Il est dit que Waliyuhum signifie que c'est Allah qui récompense les croyants pour leurs bonnes œuvres. Ensuite, il est dit Waliullah, l'ami de Dieu, c'est-à-dire le fait d'être le choisi de Dieu. Cela signifie être le choisi de Dieu afin d'être récipiendaire de ses faveurs. Al-Waliyu wal-Mawla. J'ai quitté ici les explications concernant la grammaire. Il est dit que le croyant peut porter le titre de Waliullah, mais il ne porte pas le titre de Mawla Allah. Car à propos d'Allah, il est dit Waliul Mu'minina wa Mawlahum. Ensuite, ils ont cité d'autres versets. Par exemple, il dit Dhalika bi anna Allaha Mawla alladhina amanu. C'est un verset de la sourate Muhammad. Ensuite, il est dit « Ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir », un verset de la sourate Al-Anfal. Ensuite, il est dit « Qul ya ayuhal ladhina hadu, in zahamtum anakum awliyaullahi min duni nas ». C'est un verset de la sourate Al-Juma. « Thumma rudu ilallahi mawlahum al-haq », un verset de la sourate Al-Anam. « Wa ma'lahum min dunihi min wal », un verset de la sourate Ra'd, à le sens de Wali ici. Ensuite, ils ont commenté sur la grammaire de ces versets. Je ne vais pas entrer dans ces détails ici et je vais citer ces versets dans leur intégralité. Le premier verset est de la sourate Muhammad. Il est dit Dhalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. C'est parce qu'Allah est l'ami de ceux qui croient et quant aux mécréants, ils n'ont pas d'amis. Dans un des versets précédents, Allah déclare « Ya ayyuhallatina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabit aqdamakum. » Ô vous qui croyez, si vous aidez Allah, il vous aidera et il affermira vos pas. Ce verset renferme des conseils pour les musulmans qui vont venir après le saint prophète Mohammed, il y a aussi des avertissements ici. Il est dit qu'il ne suffit pas de croire, mais vous avez l'obligation de suivre la religion de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez profiter des faveurs de Dieu, et c'est ainsi que vous allez renforcer votre foi. Et vous serez considéré comme une jamaat. À l'époque du Messie premier l'Islam, puisqu'il y aura la renaissance de l'Islam, les musulmans vont devoir venir afin d'aider le choisi de Dieu. Si vous aidez Allah, c'est là que vous allez voir l'aide de Dieu en votre faveur. Et quant à ceux qui ne croient pas, leur état sera le même que ceux des premiers opposants des prophètes. Les musulmans d'aujourd'hui doivent méditer sur cette question. J'en ai parlé à plusieurs reprises auparavant, à savoir qu'Allah a promis son aide et son soutien. Allah a promis qu'il va faire sortir les croyants des ténèbres pour les mener vers la lumière. Mais en dépit de se qualifier de croyants, dans les journaux, les éditorialistes disent que nous sommes en train de faiblir dans notre foi. Nous sommes en train de sortir de la lumière et nous portons vers les ténèbres. Nous ne progressons pas matériellement, mais nous sommes en train de régresser. Quel est le mal que nous ne sommes pas en train de perpétrer? Voilà ce qu'ils disent dans leurs journaux. Ils disent aussi que certainement nous avons dû courroucer ce Dieu, Dieu qui est l'ami des croyants. Ils peuvent encore réfléchir sur cette question. Ils peuvent encore générer cette lumière en leur personne. L'aide de Dieu est là. Qu'ils acceptent l'imam de l'époque et qu'ils lui transmettent les salutations du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ce n'est pas un signe d'intelligence que d'insister que la porte de la Nabouwa est fermée et qu'il n'y aura pas d'autre prophète après le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent méditer sur les paroles des saints du passé. Que disent-ils à ce propos? Vous ne devez pas vous contenter de suivre ces ulémas de nom qui ont une connaissance superficielle. Je vais citer ici quelques dires des érudits du passé, des extraits de leurs écrits que nous citons dans nos livres et qui sont présents dans les livres des autres musulmans aussi. Par exemple, Hadrat Muhyiddin ibn Arabi déclare que la Nubuwa, le prophétat qui est arrivé à sa fin à l'époque du saint prophète, est une Nubuwa de prophète de loi. Le statut de prophétat en soi n'est pas arrivé à sa fin et il n'y aura pas de nouvelle charia qui va abroger la charia du saint prophète et on ne pourra rien y ajouter. Et il est dit que la Rasoul Abadi ou la Nabi Abadi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prophète après moi qui va apporter une nouvelle loi, une nouvelle charia. Certes, il y aura d'autres prophètes qui vont suivre ma charia et après moi, il n'y aura pas d'autres prophètes qui vont apporter de loi. C'est-à-dire, aucun prophète ne va inviter les gens vers une nouvelle loi. Voilà donc ce type de Nubuwa qui est arrivé à sa fin. En tout cas, la Nubuwa n'est pas une chose du passé. Futuhat Makkiya, volume 2, page 73. Il déclare aussi que la Nubuwa n'a pas disparu complètement. Aucun prophète porteur de loi ne viendra, voilà le sens de la Nabi Abadi. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré la Nabi Abadi, cela veut dire qu'il n'y aura pas après lui de prophète porteur d'une nouvelle loi, car après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il n'y aura pas d'autre prophète. Tout comme il a dit que quand l'empereur sera tué, il n'y aura pas d'autre empereur après lui, et quand Khosrès, le roi de Perse, sera tué, il n'y aura pas d'autre roi perse après lui. Hadrat Imam Sharani déclare « Wa qawluhu salam la nabi abadi wa la rasoula » signifie « la musharri'a abadi ». Il a dit donc que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'il n'y aura pas après moi d'autres prophètes et d'autres rasouls. Cela veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas après moi de prophètes porteurs de loi. Hazrat Mullah Ali Qari écrit dans l'ouvrage Mawdu' al-Kabir, page 58 à 59, que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que si Ibrahim, mon fils, vivait, il aurait été un prophète, et si Omar fut prophète, il aurait suivi le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces paroles ne vont pas à l'encontre du verset Khatam al-Nabiyyin, car Khatam al-Nabiyyin signifie qu'après le saint prophète, paix soit sur lui, il n'y aura pas de nouveau prophète qui viendra abroger la loi du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et qui ne sera pas de sa umma. Hadrat Aisha radhiyallahu anha déclare: إِنَّهُ خَاتُمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدِي. C'est-à-dire, dites que le saint prophète est le Khatam al-Nabiyyin, mais ne dites pas qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après lui. Ce hadith se trouve dans Dur al-Manthur. À la lumière de ces paroles, l'on comprend que nos prédécesseurs n'avaient pas les mêmes concepts que ceux présentés par les oulémas d'aujourd'hui. Méditez sur ces versets du Coran et sur ces références et tout sera clair. Méditez aussi sur ce fait important. Comment Allah a-t-il pu accorder du répit à une telle personne? Une personne qui lui attribue mensonge, une personne qui déclare que je viens de la part de Dieu. Et ici, nous voyons que la situation est tout autre, à savoir que le Messie premier, l'Islam, déclare qu'il vient de la part de Dieu, et à chaque pas, nous voyons qu'il jouit du soutien de Dieu. Et nous voyons des signes clairs que Dieu est son soutien, son aide et son wali. Allah lui a donné ses révélations, Allahu waliyuka wa rabbuka, c'est-à-dire Allah est ton ami et il est celui qui s'occupe de toi. En 1883, il a reçu cette révélation où Allah a déclaré: Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sache que les amis de Dieu n'ont pas de crainte ni de regret. À part cela, il a reçu d'innombrables autres révélations concernant ce sujet. À propos des imposteurs, Allah déclare: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Si il nous avait attribué des mensonges, nous l'aurons certainement attrapé par la main droite. Le Messie promis, alayhi salam, quant à lui, eh bien, il a vécu 25 ou 26 ans après avoir publié ses premières révélations. Il a vécu longtemps et il a vu aussi les progrès de sa jamaat. Mais en plus, nombre de ses prophéties se sont réalisées avec la gloire. Et Dieu a prouvé qu'il était aussi son wali. Ce sont là des preuves éclatantes que même un aveugle peut voir. Dieu lui a révélé ces paroles: que je suis avec toi. Et jusqu'à présent, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. Allah lui avait révélé: je suis avec toi et avec tes bien-aimés. À l'avenir aussi, nous allons voir l'accomplissement de cette prophétie. Allah lui a aussi révélé que je vais transmettre ta proclamation jusqu'aux confins de la terre. Il y a une autre révélation où il est dit que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre, mais ici il est dit: je vais transmettre ta proclamation jusqu'aux confins de la terre. Il a reçu cette révélation en 1886. Quel était l'état du Qadian à l'époque? Il n'y avait pas de moyen de transmission ou de communication ou de transport à Qadian. Si on voulait voyager, on devait partir à pied à Batala pour prendre un train. On devait partir à pied ou en voiture. Qadian était un tout petit village et personne ne traversait Qadian. De ce village, il a fait cette proclamation et les gens devaient se moquer de lui à l'époque. Et nous voyons qu'aujourd'hui, sa proclamation a atteint les confins de la terre. Ceux qui le critiquent disent que ce n'est pas la grande chose, que nous aussi, par nos sites web, par nos chaînes de télé, nous pouvons transmettre nos messages concernant l'islam ou contre l'Ahmadiyya. Ils disent aussi que si par la MTA vous transmettez votre message, ce n'est pas là une grande chose. Mais ils doivent réfléchir que est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui, avant l'existence de ces moyens, qui est déclaré au nom de Dieu, que Dieu lui a révélé que je vais transmettre ton message ou ta proclamation jusqu'aux confins de la terre. 100 ans est très loin. Voyons un peu ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ait déclaré quelques mois de cela ou quelques années de cela que Dieu m'a informé que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre? Si quelqu'un fait cette déclaration aujourd'hui, qu'il fasse cette déclaration ouvertement, que Dieu m'a informé qu'il va transmettre ce message par des sites web, par des chaînes de télé, et qu'il va m'aider. Mais personne n'a fait de telles déclarations. Il est facile de faire des critiques, et les oulémas d'aujourd'hui ne font que dire n'importe quoi. En fait, c'est le feu de la jalousie qui les consume de l'intérieur, et c'est pour cette raison que leur animosité est en train de grandir. Et ce feu de la jalousie devait naître en eux, car telle fut la prophétie de Dieu. Allah a promis qu'il va les faire sortir de la lumière pour les mener vers les ténèbres. Lorsqu'il y aura un envoyé de Dieu, il y aura des gens qui vont s'opposer à lui. Si même ces personnes avaient quelques brins d'intelligence auparavant, en raison de leur opposition à ce prophète de Dieu, ils vont tout perdre et ils vont tomber dans les ténèbres. Et ensuite, ils seront des ashabun nar. Qu'Allah ait pitié de ces gens et qu'il les éclaire. Allah est notre ami, notre Mawla, et il a annoncé qu'il sera tout le temps notre ami et notre soutien et notre gardien. Et il a promis et il a montré qu'il va tout le temps nous accorder ses grâces. Qu'Allah fasse que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers lui, afin que nous puissions tout le temps profiter de ses grâces, des grâces qui viennent de la part de ce Dieu qui a déclaré « Inna Allaha maulakum, ni'mal maula wa ni'mal nasir ». Sachez que c'est Allah qui est votre aide. C'est un très bon ami, c'est un très bon aide. Je dois faire des annonces concernant quelques prières funéraires que je vais diriger aujourd'hui après la prière de Jumma. Il y a en premier lieu la prière funéraire de Mukarram Zulfikar Mansour Saheb, fils de M. Mansour Ahmad Saheb de Quetta, qui a été assassiné le 11 octobre de cette année. Inna lillahi wa inna ilahi rajoun. Un mois avant son assassinat, il a été kidnappé alors qu'il sortait de sa maison. Ses ravisseurs ont demandé une très grosse somme en rançon. Et on avait maintenu le contact avec eux, on avait pu recueillir cette somme. Mais un jour, on a su que son cadavre gisait quelque part dans la jungle. Et ils ont envoyé ce message que vous êtes en train de convertir les autres et en faire d'eux des Qadiani. C'est pour cette raison que nous n'allons pas le laisser vivre. Et ils l'ont torturé avant de l'assassiner et ils lui ont tiré une balle dans l'œil et l'ont complètement défiguré. C'était un khoudam très actif, une personne très honnête. Et il était Naïb Qaïd de la khoudam al-Ahmadiyya. Son oncle Abbas Saheb est tombé à martyr en avril 2008 et en juin 2009, un autre de ses oncles, Khalid Rashid Saheb, est tombé lui aussi à martyr. Ce jeune homme est un des arrière-petits-enfants d'un compagnon du Messie premier al-Islam. Parmi les membres de la famille endeuillée, il y a sa mère, son épouse et deux enfants. Il a un fils et une fille de 9 et 6 ans. Qu'Allah leur accorde de la patience et qu'Allah exalte le statut de la personne décédée. La deuxième prière funéraire concerne un de nos amis d'Égypte, M. Mohamed Ashwa Saheb, qui est décédé le 14 octobre de cette année. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est un Ahmadi de la Syrie, un Ahmadi exemplaire qui avait une grande fidélité envers le califat et à la Jamaat Ahmadiyya, qui respectait le système de la Jamaat, une personne pieuse et muttaqi. Lorsqu'on lui confiait une tâche quelconque, il s'en acquittait. Il était ému lorsqu'on prononçait le nom du Messie premier al-Islam. Il avait complété ses études de droit en 1950. C'était un très grand avocat. Il a embrassé l'Ahmadiyya après avoir entendu parler de la Jamaat. Il est allé voir un grand alim, Nasir Albani, qui s'opposait férocement à la Jamaat. C'était un alim de hadith et était très connu dans le monde arabe. Donc cet avocat est allé voir cet alim et lui a demandé à propos de la Jamaat et lui a raconté un incident où un prêtre était sans réponse devant un Ahmadi et il a expliqué comment cet Ahmadi a brisé la croix. Nasruddin, l'érudit ou cet alim, a déclaré que pour réduire au silence des chrétiens, nous pouvons leur dire que Jésus-Christ est mort. L'avocat lui a demandé « Est-ce que Jésus est mort réellement ?» L'érudit a dit « Non ». Et l'avocat lui a dit « Non, moi je vais prêter allégeance à l'Ahmadiyya car il ne peut y avoir deux poids, deux mesures dans le domaine de la doctrine. » Et ensuite, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il fut membre de l'armée nationale et lorsque le deuxième calife a visité la Syrie, il a eu l'occasion de l'accompagner au Liban. Au cours de ce voyage, la délégation du deuxième calife a visité les vestiges archéologiques de la cité de Baalbek. Au cours de ce voyage, le deuxième calife a déclaré qu'ici, on adorait des faux dieux et aujourd'hui, nous allons adorer Allah et nous allons accomplir deux rakats de nafil. Et tout le monde a fait ces deux rakats. Donc, il était un très bon avocat. Et en tant qu'avocat, il demandait des preuves pour chaque chose. Mais lorsqu'on lui disait que c'est le calife qui a dit ceci, il déclarait que cela suffisait. Au cours du quatrième califat, on avait intenté des procès contre des Ahmadis. Il les a soutenus au cours de ces procès et Allah les a complètement libérés des conséquences de ce procès. C'était une personne qui avait une réponse à tout. Lorsqu'il était tout jeune, il s'est présenté dans le tribunal. Il portait la torche d'avocat. Le juge s'est moqué de lui car il était jeune. Il lui a demandé « Est-ce que tu es un avocat ?» Il était le seul avocat et il portait la torche d'avocat. Donc, il a demandé au juge « Est-ce que toi, tu es un juge ?» Et le juge fut réduit au silence. Il était très amène et aimable envers les missionnaires de l'Arabic Des qui ont étudié là-bas. Il les a aidés à corriger la langue. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants puissent suivre les préceptes de l'Ahmadiyya. Monsieur Mohamed Owais de la MTA, Monsieur Mohamed Malik Saab qui étudie à l'université de Cambridge sont ses petits-enfants. La troisième prière funéraire concerne Mia Ghulam Rasool Saab qui est le père d'un de nos missionnaires qui travaille au Trinidad. Il était un moussi, il a été enterré à la Bashti Makbara. Il était le fils d'un compagnon du Messie premier Islam. Il possédait de grandes qualités. Il était toujours prêt à aider les pauvres. Dans sa prière de janaza, il y avait de non-Ahmadis qui ont déclaré qu'aujourd'hui, nous sommes des orphelins. Grâce à la MTA et grâce aux cassettes, il faisait le tablir. Et ainsi, nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. La quatrième prière funéraire concerne un de nos missionnaires, M. Muzaffar Mansour, qui est décédé le 9 octobre. Il a eu une crise cardiaque. Il avait 60 ans. Il a travaillé en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Il travaillait dans le département d'Islaouichad. Il travaillait d'arrache-pied, je le connaissais dès mon enfance. J'ai travaillé avec lui dans l'Atfal al-Ahmadiyya et dans le Khuddam al-Ahmadiyya. C'était une personne qui travaillait avec honnêteté et qui faisait de grands efforts. Qu'Allah accorde de la patience aux familles endeuillées. Il a laissé sa femme et deux fils et deux filles. Qu'Allah leur accorde à tous sa protection. Amin.